Bonjour et bienvenue dans le club des Têtes au Carré avec, comme chaque vendredi, des publications, des découvertes qui ont marqué l'actualité des sciences de la semaine. Et aujourd'hui, au programme, un livre savoureux sur des découvertes scientifiques étonnantes qui vient de paraître, Les secrets de longévité d'un ver, un rapport qui précise les scénarios climatiques pour la France jusqu'à la fin du siècle et du nouveau sur ce que perçoit notre cerveau pendant notre sommeil. Pour développer ces sujets, je suis en compagnie de Pierre Barthélémy, Hugo Aguilianou, Jean Jouzel et Sid Quider. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour.
Pierre Barthélémy, vous êtes journaliste et blogueur scientifique. Vous tenez sur le site du journal Le Monde, le blog Passeur de Science, dont le succès ne se dément pas depuis sa création en 2011. Et vous venez tout juste de sortir un recueil de vos chroniques aux éditions Hugo et compagnie. Ce sont des histoires de science aussi sérieuses qu'étonnantes que vous racontez dans ce livre et vous allez nous en raconter quelques-unes. Hugo Aguilianou, chercheur au CNRS, vous travaillez dans le laboratoire de biologie moléculaire de l'université Claude Bernard Lyon 1. Vous avez découvert chez un petit ver une hormone qui pourrait à l'avenir nous aider à lutter contre les maladies du vieillissement. Les résultats de vos travaux ont été publiés hier dans la revue Nature Communication. C'est donc tout frais. Également autour de la table, Jean Jouzel, climatologue. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA. Et vendredi dernier, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a rendu public un rapport sur l'évolution du climat en France jusqu'en 2100. Un rapport que vous avez dirigé, Jean Jouzel. Vous êtes donc le mieux placé pour nous dire ce qu'il faut en retenir. Et puis nous terminerons sur une découverte étonnante sur notre cerveau, une découverte que l'on vous doit. Sid Quider, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistiques. Vous avez publié hier dans la revue Current Biology une étude selon laquelle notre cerveau continue à identifier les mots durant notre sommeil. Vous nous direz comment vous avez fait cette découverte et puis quelles applications cela pourrait avoir. Voilà pour le sommaire de ce club des Têtes au Carré, réalisé par Violaine Ballet et préparé par François Mercier. Pour nous laisser vos messages ou réagir au sujet du jour, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou Twitter avec le hashtag l'attaque.
La Tête au Carré, le club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Fais péter tes rayons, fais péter tes rayons, fais péter tes rayons, un jour moi j'irai au Japon. Fais péter tes rayons. Tes rayons, au pays du soleil levant. soleil, le vent.
C'était Soleil au réveil de Jojoa et Lieutenant Nicholson sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et autour de la table du club des têtes au carré aujourd'hui, il y a le biologiste Hugo Aguilianiou, le climatologue Jean Jouzel, le neuroscientifique Sid Quider et le journaliste scientifique Pierre Barthélémy. Pierre Barthélémy qui vient de publier un livre intitulé « Passeurs de science » aux éditions Hugo et compagnie. Cet ouvrage rassemble une centaine d'articles publiés sur vos blogs. Alors il y a d'abord eu le blog Globule et Télescope, puis un autre blog « Passeurs de science » hébergé cette fois sur le site du Monde, lemonde.fr. Un blog qui marche très fort, 25 millions de pages lues depuis son lancement en 2011, qui a dit que les sciences n'intéressaient personne. D'ailleurs, Pierre Barthélémy, vous en êtes venu à créer ces blogs après être passé par la presse écrite quotidienne, où vous vous êtes vu très souvent refuser vos articles. Visiblement, les sciences n'étaient pas prioritaires pour les rédacteurs en chef.
Oui, ça, c'est un petit défaut de la presse française, c'est-à-dire que la science, c'est quand même un peu la cinquième roue du carrosse. On a des hiérarques, on va dire, des médias qui sont quand même tous passés un peu par les mêmes écoles et qui s'intéressent tous un peu au même sujet, la politique, l'international, l'économie, éventuellement la culture. Mais c'est vrai que des sujets comme la science, qui pourtant aident à la compréhension du monde...
Et fait partie de la culture.
Ils font partie de la culture complètement, la culture scientifique, ça fait partie de la culture, tout court. Ces sujets-là passent souvent à l'as.
Donc selon vous, ce ne sont pas les lecteurs qui sont réfractaires aux sciences, ce sont ceux qui tiennent les journaux, les rédacteurs en chef.
C'est comme ça que ça se passe. En plus, c'est très franco-français ou francophone, je ne sais pas. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, on se rend compte que la science a beaucoup plus droit de cité dans les pages des journaux écrits. Vous voyez par exemple des journaux comme The Independent ou le New York Times qui arrivent à faire leur une parfois sur des sujets scientifiques ou environnementaux ou médicaux, des découvertes médicale, et ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir en France, parce qu'effectivement, il y a cette espèce de vision de la science comme une chose rébarbative, qui est peut-être créée, générée par le système éducatif français. Et puis aussi, peut-être que les élites médiatiques françaises sont toutes sorties du même moule et manquent un petit peu de diversité.
Je vois Jean Jouzel qui a l'air d'acquiescer.
Oui, mais... Bon, j'aimerais aussi rendre un peu hommage à ceux qui s'impliquent, Pierre entre autres, mais tous ses collègues. Je pense que c'est vrai ce que dit Pierre, mais nous avons aussi des journalistes remarquables qui sont quand même proches du monde scientifique, pas assez peut-être, pas assez de place, mais moi j'aimerais leur rendre un petit hommage quand même ici.
Il y en a quand même qui font du bon boulot apparemment.
Voilà, Pierre, c'est ce que je veux te dire. Mais Pierre en est un, c'est pas
Pierre
le problème,
Barthélémy,
c'est pas ce que je veux dire.
Mais fait partie.
C'est vrai que j'ai aussi plutôt une vision positive, mais je crois aussi... Pierre connaît les difficultés.
Oui, alors Pierre Barthélémy, c'est donc ce qui vous a conduit à créer ce blog, parce que là, au moins, vous pouviez parler de science tout votre saoul et puis aborder les sujets parfois un peu surprenants, un petit peu insolites, et puis les raconter avec une vraie patte de conteur aussi.
Voilà,
hein.
Donc moi, ce que j'ai voulu faire à travers ces blogs, d'abord, ça donne un vrai espace de liberté. La place n'est pas comptée. Le ton que vous adoptez, c'est le vôtre, il est complètement libre. On peut d'ailleurs se défaire de certaines certaines habitudes journalistiques dans un blog. Et d'ailleurs, je pense que c'est essentiellement ça que les lecteurs apprécient, c'est le fait d'avoir un interlocuteur bien identifié auquel on parle. En plus, c'est vrai que dans un blog, il y a beaucoup d'interactivité, puisqu'il y a des commentaires auxquels parfois je réponds, etc. Donc, c'était vraiment une aventure à la fois journalistique, mais comme vous le dites, aussi d'écriture, ouais. Parce que ça permet effectivement, en s'affranchissant de certaines règles journalistiques, de faire un peu plus de style, de faire des jeux de mots, de s'intéresser aussi à des sujets qui sinon ne passeraient jamais la rampe des grands médias, tout simplement parce qu'ils sont anecdotiques ou peut-être un petit peu trop borderline.
Ouais, l'idée, c'est que l'on apprend mieux en s'amusant.
Exactement.
Ouais. Avec effectivement des sujets un peu borderline. Alors, je ne sais pas si on commence tout de suite avec un sujet
c'est
borderline. On va en faire des peut-être plus soft. Les brocolis qui protègent de la radioactivité. Là, ce sont des petites infos. Ça surprend, en tout cas, de l'apprendre comme
oui,
ça.
Oui, c'est un résumé un petit peu hâtif, mais c'est vrai que... On s'est rendu compte que dans ces plantes-là, les crucifères, donc c'est les choux de Bruxelles, les brocolis, etc., il y avait une molécule qui permettait, si on l'ingérait de manière assez importante quand même, hein, il ne va pas falloir manger juste 2-3 brocolis pour que ça suffise, mais qui permettait effectivement, en cas de... si jamais on était exposé à de la radioactivité, de réparer les cellules d'ADN qui auraient pu être brisées par la radioactivité et d'empêcher aussi la mort cellulaire programmée de ces cellules.
Alors une autre expérience étonnante qui montre que les mots agissent sur notre comportement. C'est assez amusant. Alors, elle n'est pas toute récente, cette histoire.
Non, elle n'est pas récente, mais elle m'a quand même beaucoup frappé parce que premièrement, je suis quelqu'un qui vit des mots, donc forcément, j'étais un peu plus sensible peut-être à cette expérience que d'autres. C'est une expérience américaine qui a été faite il y a déjà une vingtaine d'années. Et l'idée, c'était... On prenait des cobayes, comme c'est souvent le cas en psychologie. On ne leur explique pas, évidemment, le but de l'étude, sinon ça fausse tout. On leur soumettait un certain nombre de mots. On leur demandait de faire des phrases à partir de ces mots. Et en fait, c'était des mots qui étaient tous liés aux stéréotypes sur les personnes âgées. Donc, ils faisaient leurs phrases, etc. Puis on leur disait merci, au revoir, pour sortir, vous allez prendre l'ascenseur qui est là-bas. Et en fait, c'est seulement à cet endroit-là que l'expérience commençait, parce qu'on chronométrait la vitesse, le temps que mettaient les gens pour aller jusqu'à l'ascenseur. Il y avait une dizaine de mètres. Et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient été exposées aux mots sur les personnes âgées marchaient plus lentement que les autres. Ouais. Alors au début, ils se sont dit, bon, c'est un problème de l'expérience, c'est quand même pas possible que c'est pu influencer le comportement des gens à ce point-là. Et en fait, ils ont refait l'expérience du coup avec d'autres personnes et ils ont obtenu exactement les mêmes résultats, mais au dixième de seconde près.
Mmh. Et le neuroscientifique Sid Quidert autour de cette table, c'est une expérience presque classique en neurosciences.
Absolument, c'est une expérience qui donne des informations sur les stéréotypes inconscients que nous possédons tous et qui montre que finalement, en fait, on est très très influencé par des choses qu'on ne contrôle absolument pas. Alors, je dois avouer quand même que c'était une expérience qui a une quinzaine, vingtaine d'années, qui est un peu controversée quand même parce qu'elle n'a pas toujours été facile à répliquer, mais il y a des gros débats avec des laboratoires qui arrivent à répliquer ce genre de choses. Ça prouve bien que finalement, en fait, on a assez peu de contrôle en fait sur ce que l'on peut percevoir.
Je crois que les neuroscientifiques parlent dans ce cas-là d'amorçage cognitif.
Absolument.
Alors qu'est-ce que c'est exactement ça ?
Alors c'est de l'amorçage, c'est-à-dire qu'on va tout simplement biaiser le sujet, amorcer un comportement sans même que le sujet, que la personne en soit consciente. Donc on va essayer d'influencer en fait. Et la notion d'amorçage, c'est vraiment d'avoir une influence sur le comportement a posteriori.
C'est-à-dire qu'un mot va en allumer d'autres dans notre cerveau.
C'est ça. Notre cerveau est un
par association d'idées.
Exactement. Mon cerveau est un peu organisé en termes de réseaux. Ces réseaux sont ce qu'on appelle des réseaux sémantiques, des réseaux associatifs. Et lorsqu'on envoie une idée, même si on n'en est pas conscient, cette idée va se propager, activer d'autres concepts, d'autres stéréotypes. Par exemple, le stéréotype de vieillesse, le stéréotype de lenteur. Et progressivement, ça va avoir une influence sur notre comportement. Et c'est pour ça qu'on a cette belle expérience.
Ce qui est intéressant, c'est que dans aucun des mots qui était soumis aux personnes, on ne parlait de lenteur, de vitesse ou de rapidité.
Ah ouais.
En fait, c'est juste le stéréotype de la personne âgée qui a activé, par association d'idées, effectivement, le stéréotype de lenteur.
Ouais. Alors, les neurosciences, c'est une mine pour trouver des histoires toujours assez fascinantes et surprenantes. Il y en a une autre que vous racontez dans votre livre, Pierre Barthélémy, l'homme qui ne reconnaît pas les visages. C'est une vraie pathologie, elle est assez rare.
Oui.
Racontez
cet
homme.
C'est un témoignage que j'ai eu dans un journal scientifique. Et ce monsieur, qui est gastro-entérologue, raconte que voilà, il y a une soixantaine d'années et qu'il s'est rendu compte, mais relativement tardivement, qu'il ne reconnaissait aucun visage. langage, ça s'appelle la prosopagnosie. Et c'est assez surprenant parce qu'on se rend compte qu'il arrive à perdre sa femme dans la foule. Il arrive à ne pas reconnaître ses enfants aussi. Et puis aussi, quand il
regarde même des films à la télé, il est très handicapé parce qu'il faut que sa femme lui dise « Oui, ça, c'était le meurtrier, il a enlevé son chapeau, mais c'est toujours le même. »
Exactement. Si les personnages changent de vêtements, par exemple, lui, il se rattrape beaucoup avec des béquilles. C'est-à-dire... les vêtements, les chevelures, les coupes de cheveux. Dès que vous changez de coupe de cheveux, il ne va pas vous reconnaître parce qu'il s'est aidé de ça pour vous identifier. Il travaille dans un hôpital, donc c'est très pratique pour lui parce que les gens ont un badge avec le nom dessus. Et c'est sans doute pour ça qu'il a choisi de travailler en milieu hospitalier et pas en libéral, etc. Et il y a des choses très, très intéressantes aussi. Je lui ai demandé s'il se reconnaissait sur les photos. Ouais. Parce qu'il y a la question de son propre visage à lui.
C'est le plus terrible.
Je ne sais pas si c'est le plus terrible que par connaître ses enfants, j'en sais rien.
Oui,
mais c'est vrai que quand il ne sait pas qu'il a été pris en photo et qu'on lui soumet une photo qui a été prise à son insu et qu'on lui dit « Est-ce que tu es sur la photo ?», il ne va pas y arriver.
Il ne se reconnaît pas lui-même.
Non. C'est quand même les informations qui sont portées par le visage, il ne les mémorise pas.
Alors, on disait tout à l'heure, il y a aussi des sujets plus borderline. Par exemple, il y en a un, je crois que vous avez hésité d'ailleurs à raconter cette histoire-là. C'est vrai qu'elle est très étonnante, mais on se demande un peu l'intérêt scientifique de la raconter. C'est l'histoire de c'est un homme qui travaillait sur les troubles de l'érection et qui, pour prouver que son traitement marchait, a été très loin lors d'une conférence.
Il a été très loin.
C'était dans les années début 80.
C'était au début des années 80, donc c'est l'époque pré-Viagra, évidemment. Et ce monsieur, mais en fait, c'est pas vraiment borderline, parce qu'en fait, les troubles, le dysfonctionnement érectile, c'est vraiment quelque chose d'important pour ceux qui en souffrent, en tout cas.
Ouais,
et donc, on était loin de savoir guérir ce genre de choses. Et son idée, c'était de faire des injections de certains produits qui réactivent la circulation sanguine dans le pénis. Et il présente ses travaux. Et il y a un congrès d'urologues à Las Vegas. C'est la fin de la journée. Tout le monde attend le cocktail, etc. Tout le monde est en smoking et robe de soirée, etc. Et donc, il arrive en survêtement. Alors, les gens se demandent, c'est bizarre cette tenue. Bon, bref, peu importe. Il fait son speech. Il montre les photos des résultats qu'il a obtenus. Mais il dit, voilà, il n'y a rien qui vous prouve en regardant les photos que les érections que vous voyez ne sont pas dues à
une excitation
sexuelle. Donc, pour vous prouver que le travail que j'ai fait est vraiment sérieux, avant de venir ici, je me suis fait moi-même une injection. Et si j'ai revêtu ce survêtement, c'est pour plaquer le pantalon sur mon corps pour que vous voyez le résultat. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était guère probant, son truc. Donc, il a simplement baissé son pantalon devant tout le monde. Et puis, il a commencé à se promener pour que les urologues, qui sont des professionnels quand même...
qui devaient être quand même un petit peu médusés de la
scène. Oui, ils étaient
complètement
médusés, et surtout les conjoints des urologues qui ne s'attendaient pas vraiment à finir la soirée comme ça. Et à quelqu'un qui s'exhibe sous leur nez. Et il est même descendu de l'estrade pour dire, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas toucher, mais regardez de plus près pour voir que
c'est en ça que je disais que cette histoire est quand même un petit peu borderline. C'est vrai qu'on va au-delà de la science.
Non,
est-ce qu'à chercher...
Oui et non, parce qu'en fait, il y a une grande tradition dans la science de l'auto-expérimentation. Il y a quand même beaucoup
dans la médecine,
dans la médecine, mais oui, dans la science aussi, de gens qui sont allés très très loin, dire voilà, je vais pas exposer un cobaye à l'idée que j'ai, je vais le faire sur moi-même. Et je trouve que bon, c'est un comportement vraiment particulier, mais après tout, on a eu un prix Nobel il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Barry Marshall, qui avait pour idée que l'ulcère de l'estomac était provoqué par une bactérie et non pas par le stress, comme on avait souvent l'habitude de l'entendre, et qui personne ne le croyait vraiment. Et donc, il a ingurgité lui-même un bouillon de culture avec cette bactérie, et au bout de 15 jours, il commençait à avoir un ulcère et il s'est guéri avec des antibiotiques. Et donc, c'était entre guillemets une des preuves, c'était pas la seule preuve qu'il avait raison, mais en tout cas, c'était une des preuves, parce que personne ne pensait que dans l'estomac, on pouvait avoir des bactéries qui résistent à l'acidité du milieu.
Comment vous trouvez vos sujets? À quel moment vous vous dites « ça fait une bonne histoire que je peux raconter » tout en y raccrochant? Parce qu'il faut le dire, c'est souvent très rigoureux scientifiquement et vous prenez le soin d'expliquer, de raconter qu'il y ait toujours du contenu, que ce ne soit pas juste pour la blague.
Non, c'est jamais que pour la blague, parce que de toute manière, effectivement, tout à l'heure, on disait qu'on apprend mieux en s'amusant. Mais ce que je veux dire, c'est ces histoires, elles peuvent sembler loufoques ou complètement grotesques, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de question stupide. Il n'y a que des réponses qui peuvent être stupides éventuellement. Ce qui est intéressant, c'est que le protocole scientifique est capable de répondre à toutes ces questions, parce qu'il est d'une rigueur et d'une solidité à toute épreuve.
C'est donc à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, dans le livre « Passeurs de science » édité par les éditions Hugo et compagnie. Vous restez avec nous, hein, Pierre Barthélémy, ce sera intéressant d'avoir votre avis et votre regard sur les découvertes que nous allons aborder avec nos autres invités. Une hormone qui allonge la durée de vie mais qui diminue la fertilité. C'est vous et votre équipe, Hugo Aguilagnu, qui avez découvert cette hormone dans un petit verre, le Cénorhabditis elegans. Vous travaillez dans le laboratoire de biologie moléculaire de l'université Claude Bernard, Lyon 1. Les résultats de vos travaux ont été publiés hier dans la revue Nature Communication. Hugo Aguilagnu, une chose que les chercheurs savent, c'est que de toute façon, manger moins allonge la durée de vie. Ça, c'est quelque chose que l'on sait depuis plusieurs années. Ça marche pour beaucoup d'organismes vivants.
Oui, absolument. Alors, je vais rectifier juste, je suis de l'École normale supérieure de Lyon.
J'ai une Vous avez raison.
Avec l'université, mais ce n'est pas grave. Oui, effectivement. Donc, la restriction alimentaire, c'est quelque chose dont on sait depuis les années 30 à peu près que ça allonge la durée de vie. Et ça a été il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites sur beaucoup d'organismes, des organismes les plus simples, unicellulaires comme des levures, jusqu'aux primates. Et la plupart, en tout cas, ont l'air de répondre de la même manière. Et donc, c'est une grande question dans le domaine du vieillissement, de savoir pourquoi manger moins nous fait vivre plus longtemps. On se pose donc la question de savoir pourquoi on n'a pas optimisé notre prise alimentaire pour vivre le plus longtemps possible. Mmh. Avec la réponse à cette question, excusez-moi, c'est certainement qu'on mange pas uniquement pour vivre le plus longtemps possible, mais pour remplir d'autres fonctions, comme la reproduction, par exemple.
Oui. Et ça va loin, d'ailleurs, parce qu'une restriction calorique sévère diminue aussi, on l'a observé là sur un nombre moins important d'animaux, l'incidence des maladies liées au vieillissement. Ça protège du cancer, de maladies neurodégénératives, de la fonte musculaire. Ça a été prouvé chez l'homme ou chez d'autres organismes ?
Chez l'homme, c'est très difficile de le faire parce que vous, ouais. Étant donné le côté drastique de la restriction alimentaire qu'il faudrait faire, c'est extrêmement complexe de demander à des gens de faire ça et de le faire pendant longtemps et assez longtemps pour tester ça. Il y a cependant un groupe de personnes qui s'auto-impose une restriction calorique, une restriction alimentaire qu'on peut étudier et donc on se rend compte que les effets métaboliques sur l'homme ressemblent beaucoup à ce qu'on observe chez l'animal. Et ce que vous dites est très vrai, d'ailleurs c'est ce qui nous intéresse le plus, la restriction alimentaire a un impact tout à fait spectaculaire sur l'incidence des maladies liées à l'âge. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'une part que ça augmente la longévité, mais surtout cet effet extrêmement fort sur l'incidence, par exemple, des cancers. Donc des animaux qui sont en restriction alimentaire vont avoir une incidence de cancer qui va être de 70% plus faible. Donc c'est énorme. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui est capable de récapituler.
Alors,
ça.
Qu'on soit bien clair, hein, ça ne veut pas dire que l'on conseille à tous nos auditeurs de s'appliquer à un régime drastique, parce que même si ça présenterait quelques avantages, ça a aussi de sérieux inconvénients, et notamment pour la santé. Hein.
Alors voilà, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas. On ne le recommande pas justement parce qu'on a pu étudier ces gens qui s'y sont mis, entre guillemets. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des effets délétères. Il y a des effets d'ordre psychologique. Donc les gens qui sont dans des restrictions très très fortes comme ça vont pas bien dans leur tête. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a des effets délétères physiologiques. Donc notamment des effets délétères sur la reproduction, sur la croissance, si on le fait à certains moments. Donc c'est une intervention très intéressante, mais qui n'est pas utilisable comme telle. D'où l'intérêt de comprendre les mécanismes biologiques.
Et pour comprendre les mécanismes biologiques, vous avez choisi un modèle qui pose moins de questions éthiques. Un petit verre, le Cénorhabditis elegans, qui est un peu une star hein, dans les labos. Beaucoup de chercheurs étudient à partir de ce verre. Et vous avez découvert une hormone. Quelle propriété a-t-elle exactement, cette hormone ?
C'est une hormone pour nous très intéressante, parce que c'est une hormone qui est connue comme ayant un impact sur des voies essentielles de la reproduction. C'est une hormone stéroïde et c'est une hormone qu'on retrouve quasiment à l'identique chez l'homme et chez le mammifère. C'est aussi la raison pour laquelle on s'y est intéressé. Et on s'est rendu compte que quand on met les animaux en restriction alimentaire, cette hormone est produite de manière assez significative. On en produit 6 fois plus, en tout cas les vers.
Et comment agit-elle alors ? Quel effet a-t-elle sur ces vers ?
Alors, elle a deux effets principaux, c'est qu'elle enclenche une réponse de type restriction calorique, de type restriction alimentaire, qui est en fait une réponse qui permet d'enclencher une meilleure résistance au stress. En fait, la restriction alimentaire, elle est perçue par l'organisme comme un stress. On enclenche des réponses pour se défendre, et donc on devient plus résistant. Et c'est pour ça qu'on arrive à vivre plus longtemps.
Donc,
et elle a un autre effet.
Premier effet, plutôt positif, allongement de la vie. Et deuxième effet, vous alliez le dire.
Oui, deuxième effet absolument plutôt négatif, c'est qu'elle fait baisser la fertilité de manière très significative. Ouais. Et ça aussi, c'est une réponse physiologique très très connue chez l'homme, comme chez tous les organismes qu'on connaît. Quand on donne moins de nourriture, la fertilité baisse.
Comment ça s'explique du point de vue de l'évolution que ce mécanisme ait été sélectionné, c'est-à-dire en période de restriction alimentaire, eh bien la fertilité baisse?
Alors, en termes d'évolution, on peut spéculer, bien sûr, mais une des idées qui semble faire un petit peu de sens, c'est que quand la quantité de nourriture devient très très faible, le corps interprète ça comme un milieu qui n'est pas propice à la reproduction. Ça fait pas beaucoup de sens de faire des bébés si vous voulez, si vous n'avez pas assez de nourriture déjà pour vous et pour votre enfant. Donc c'est une réponse assez classique d'arrêter de se reproduire. Alors, et puis si on pense encore dans ces lignes-là, on peut se dire ben ça peut valoir la peine d'éteindre la reproduction et d'enclencher un processus de résistance qui va nous faire durer plus longtemps pour éventuellement pouvoir récapituler la reproduction un peu plus tard quand les conditions vont s'améliorer.
Alors Hugo Aguilagnou, vous nous avez dit tout à l'heure, l'homme possède une hormone qui ressemble. Est-ce qu'elle agit un peu de la même manière dans notre organisme? Est-ce qu'on est aussi en train de découvrir une molécule qui, d'une certaine manière, pourrait agir sur notre longévité et agir sur notre fertilité?
Oui. Alors, l'hormone en question, donc c'est une hormone stéroïde de type acide biliaire. Et on sait très bien que certains acides biliaires ont effectivement un impact sur la reproduction. Ils peuvent avoir un impact sur le métabolisme. L'impact sur la longévité chez l'homme n'a pas été testé. C'est très compliqué de tester ça. Mais effectivement, nos études suggèrent que ce serait une bonne idée de le tester, par exemple.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme application avec cette hormone que vous avez découverte? Un élixir de jouvence? Vous n'êtes quand même pas en train de nous faire le coup de la vie éternelle avec cette hormone?
Non, je ne vous fais pas ce coup-là. Non. Nous, notre souci et le moteur un petit peu de nos recherches, c'est effectivement, on s'intéresse aux maladies du vieillissement. Ouais. Comme il y a 60 ans, on s'intéressait aux infections, puisque les gens mouraient d'infections et qu'on a trouvé les antibiotiques. Aujourd'hui, on meurt essentiellement de maladies liées à l'âge. Et donc, c'est le problème biomédical d'aujourd'hui, j'allais dire. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement l'impact bénéfique de pouvoir baisser l'incidence des maladies liées au vieillissement. Et cette découverte, elle a un intérêt, c'est qu'elle nous dit que la restriction alimentaire, peut-être en jouant sur cette hormone, on va pouvoir, en essayant de comprendre comment elle fonctionne, et on a également identifié dans cet article un récepteur par lequel cette hormone agit, on va pouvoir peut-être isoler la réponse longévité et la bonne réponse au niveau des maladies du vieillissement et la mauvaise réponse vis-à-vis de la reproduction. Et si on peut dissocier les deux, alors on va faire de la restriction alimentaire peut-être un mode efficace pour lutter contre les maladies du vieillissement. Mmh. Donc on n'a pas une pilule et c'est pas le but, mais disons qu'on a un élément, cette hormone, qui probablement fera partie d'une recette si un jour il y en a une.
Très bien. Pierre Barthélémy, ce type de recherche pourrait-elle vous inspirer pour une prochaine chronique?
Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a tout un corpus d'études qui s'intéressent à toutes ces maladies du vieillissement. On peut se poser effectivement la question de savoir c'est quoi le but, parce qu'il va bien falloir quand même mourir de quelque chose un jour. Mais c'est vrai que c'est fascinant. On aurait envie de pouvoir écrire tous les jours à peu près sur ces études-là, surtout quand on voit que dans nos sociétés qui sont quand même vieillissantes, ce qui compte, c'est de vieillir en bonne santé.
Ouais. Hugo, c'est intéressant ce que vous dites sur le but, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, on nous dit mais pourquoi ne pas laisser, il y a beaucoup de gens qui ont cette approche de dire mais faut bien mourir de quelque chose. Et c'est vrai, mais comme je le dis, il y a 80 ans en arrière, on mourait d'infection, 50% des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans d'infection. Et aujourd'hui, on ne remet pas en cause la vertu des antibiotiques qui permettent de garder nos enfants. Donc je pense que c'est un peu la même question, c'est sauf que les problèmes évoluent avec le temps. Aujourd'hui, on meurt d'autres choses, souvent dans des conditions qui ne sont pas agréables. Je vous invite à aller dans une maison de retraite, souvent les gens sont dans des conditions qui sont un petit peu désagréables. Donc c'est une question scientifique.
Il ne s'agit pas forcément de vivre plus longtemps, mais en meilleure santé, si je résume ce que vous êtes en train de nous dire.
Absolument, absolument. Non, la quête de la longévité, je pense que c'est plus une quête scientifique. On sait aujourd'hui comment augmenter la longévité. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'augmenter la
qualité de vie,
enfin d'améliorer la qualité de vie.
Hugo Aguilanou, je précise que vous animerez une conférence grand public lors de la fête de la science à l'ENS de Lyon. Ce sera donc le vendredi 10 octobre à 20h. Et puis, je remercie, vous étiez donc en duplex depuis Lyon pour cette intervention. Je remercie les équipes techniques de France Inter à Lyon qui vous ont permis d'intervenir dans le club des Têtes au Carré. Merci à vous, Hugo Aguilanou.
C'est moi qui vous remercie.
À venir dans le club des Têtes au Carré. Quel temps fera-t-il en France en 2050 et en 2100? Autrement dit, comment le réchauffement climatique se traduira-t-il à l'échelle de notre pays? Et puis une étude qui révèle que lorsque nous dormons, notre cerveau réagit aux mots qu'il entend. Nous attendons vos réactions et vos commentaires sur franceinter.fr et sur Twitter avec le hashtag l'attaque. Et tout de suite, on écoute Kélis qui chante Rumble. It's strange. Vous écoutez France Inter, le club des Têtes au Carré, avec autour de la table le journaliste scientifique Pierre Barthélémy, le neuroscientifique Sid Quider et le climatologue Jean Jouzel. Alors, quel climat connaîtra la France d'ici 2100? Ségolène Royal, ministre de l'écologie, a rendu public vendredi dernier un rapport sur l'évolution climatique en France au XXIe siècle, un rapport dirigé par vous, Jean Jouzel. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA et vous êtes vice-président du groupe 1 du GIEC, le fameux groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Alors sur quels travaux s'appuie ce nouveau rapport? On a envie de dire un énième rapport, mais cette fois-ci il est plus précis, hein, et c'est vraiment sur la France.
Oui, dirigé est peut-être un peu fort. J'ai coordonné justement ce rapport, s'appuie sur les travaux de mes collègues de Météo France, du CERFAX à Toulouse et de l'Institut Pierre-Simon Laplace, y compris certains de notre laboratoire. Et
cette modestie vous honore.
Voilà, j'aimerais rendre hommage à Serge Planton qui en est la cheville ouvrière de Météo France. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Parce que quand même, ça m'intéresse bien sûr. C'est une mission qui m'a été confiée par la ministre de l'Environnement de l'époque et qui se place dans la nécessité de commencer à penser à l'adaptation au réchauffement climatique. On comprend bien qu'on ne peut s'adapter qu'à ce qu'on connaît. Alors, ce vers quoi on va dépend quand même largement de nous. Alors, ce n'est pas vrai à 2050. Si on regarde à 2050, disons qu'on émette plus ou moins, ou à 2030, enfin dans 20 ans, que l'on émette peu ou beaucoup de gaz à effet de serre, ça ne changera pas grand-chose. Hein, parce que ce qui joue à court terme, eh bien, ce sont les gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère et qui n'ont pas joué complètement leur rôle climatique. À horizon 2050, horizon 2035 plutôt, puisque c'est 2020-2050, nous irions vers un réchauffement de 1 degré, voire 2 degrés dans le sud-est l'été, quelque chose auquel, qui sera largement perceptible, mais auquel effectivement on pourra s'adapter. Alors là où ça se gâte, c'est après. Après, surtout si on continue sur la trajectoire sur laquelle nous sommes. Nous sommes sur un scénario très émetteur à l'échelle planétaire. Et ce qu'ont fait mes collègues, ce que nous avons fait, c'est effectivement non pas simplement de regarder ce dont on vous parle souvent, le réchauffement global, mais de regarder avec des modèles régionaux à très haute résolution et avec les nouveaux scénarios du GIEC, 12 km, ce que cela donnera sur la France.
12 km, c'est-à-dire qu'on a un maillage de vos prévisions avec des carrés, des sortes de pixels de 12 km de côté sur le territoire français. Ça paraît d'une précision incroyable parce que jusqu'à maintenant, on en était à des tendances, à des grandes zones géographiques. Là, vous êtes très, très précis, précis.
Non, il faut être prudent. Nous sommes précis dans la géographie. Mais c'est vrai que nous avons des incertitudes quand on parle d'un réchauffement. Mais on a quand même des grandes tendances qu'on permet de bien illustrer. Par exemple, que si on se place dans ce scénario très émetteur et, disons, dans la deuxième partie du 20e siècle, du 21e siècle, eh bien, nous irions vers... on voit ce réchauffement... un peu plus important dans le sud-est que dans le nord-est, que dans le nord-ouest. Il y a, disons, une augmentation lorsqu'on va du nord-ouest vers le sud-est. Et on voit bien aussi les variations saisonnières. L'été, par exemple, des étés qui pourraient être en moyenne, je dis bien en moyenne, de 5 degrés plus chaud dans le sud-est de la France qu'il ne l'était dans les périodes de référence de la fin du 20e siècle.
Ça commence à faire des sacrées augmentations de température. D'ici 100 ans, vous prévoyez 5 degrés en moyenne supplémentaires dans certaines régions de France.
Bien sûr, il suffit de se rappeler que 2003, ce n'était que entre parenthèses, entre 3 et 4 degrés plus chaud que cet été de référence. Donc oui, ce sont un climat, et disons, tous les étés sont pratiquement aussi chauds que 2003 dans ce contexte. Alors c'est évidemment pas ce vers quoi il faut aller. Nous ne faisons pas de recommandations, mais... je crois que, enfin, quand nous avons remis ce rapport à Ségolène Royal sur les hauteurs de Saint-Gervais samedi dernier, c'est clair qu'elle a tout de suite embrayé sur la transition énergétique, ce projet de loi qui est discuté aujourd'hui même au Parlement.
Alors on va en parler, hein, bien sûr, de ce projet de loi. Juste pour retenir quelques idées clés, il apparaît quand même que la hausse des températures sera plus importante en France qu'en moyenne dans les autres régions du globe. Donc on est touché plus qu'ailleurs en France par le réchauffement climatique, on peut le dire comme ça ou pas?
Plus qu'ailleurs, pas plus. Il y a une amplification de 20-30% sur les continents en général par rapport à l'océan. Donc quand on regarde, c'est vrai pour aussi l'Europe en général, parce que l'océan se réchauffe un peu moins vite que ne se réchauffe l'ensemble de la planète. Quand on donne une moyenne globale, dans la mesure où l'océan représente 70% de la surface, évidemment, on arrive à des réchauffements plus importants sur les continents et encore beaucoup plus importants sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Donc oui, c'est vrai que le réchauffement moyen a tendance à être un peu plus fort que le réchauffement en France a tendance à être un peu plus fort que le réchauffement moyen. Et c'est aussi le fait que, finalement, c'est l'été où le réchauffement est le plus important, avec des vagues de chaleur.
Oui, vous l'avez dit, ouais. La canicule de 2003 sera quelque chose de relativement fréquent. Correspondra à un été moyen en 2100.
Et des sécheresses très importantes également.
Il fera plus chaud. Pour la pluie, c'est moins clair. On a l'impression que les modèles, vous avez un peu moins...
C'est beaucoup plus difficile. Ouais. C'est là que nos incertitudes, disons, il y a une certaine continuité dans les températures géographiques. Donc, si on se trompe de 12-15 km ou de quelques mailles, c'est pas très, très important. Pour les précipitations, c'est complètement différent. C'est très hétérogène et donc c'est beaucoup plus difficile d'en donner une image. Mais on a par exemple cette image assez claire des précipitations d'hiver qui augmenteraient de 20-30% sur la façade atlantique cette fois.
Ouais. Alors l'Organisation météorologique mondiale vient elle aussi de publier un rapport tout récemment, un rapport qui indique que 2013 se classe au sixième rang des années les plus chaudes, donc ça va dans le sens de cette augmentation que vous annoncez depuis maintenant de nombreuses années. Et deuxième élément que nous apprend le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, l'augmentation des concentrations en gaz à effet de serre a connu une accélération en 2013, donc pour le dioxyde de carbone. Donc on a envie de dire, vous tirez sur la sonnette d'alarme depuis maintenant longtemps, et puis les rapports passent. Et rien ne change.
Mais c'est la faute aux médias, Pierre. Non,
mais c'est intéressant.
Vrai, non, mais c'est vrai que.
Mais
j'aimerais bien entendre
Pierre Barthélémy
Je sais bien, non, c'est pas du tout la faute aux médias, mais ce message est très difficile à transmettre. Nous sommes dans une position dans laquelle nous délivrons ce message régulièrement de façon de plus en plus concrète. Je ne dis pas différente, on répète toujours la même chose, c'est exact. Mais c'est vrai qu'on a du mal à passer du diagnostic à l'action, c'est très clair.
Pierre Barthélémy, est-ce qu'effectivement vous avez l'impression que sur ce coup-là, les médias, les journalistes ne font pas... C'est de leur faute si on n'arrive pas à...
Je crois que la question a peut-être pu se poser à un certain moment où effectivement les journalistes, y compris dans cette émission d'ailleurs, on va être méchant, donner la parole de manière tout à fait égale aux climato-sceptiques et aux climatologues, et qui en fait ne parlaient pas du tout de la même chose finalement, puisqu'il y avait l'idéologie d'un côté puis de la science de l'autre, et en fait ça fait jamais bon ménage. Donc je dirais que j'espère qu'en France en tout cas ce débat-là il est quand même dépassé. Maintenant la question c'est pas du tout la question de la médiation de cette science. La question, c'est comment agir. Le problème, c'est que les agendas des politiques ne correspondent absolument pas aux agendas du réchauffement climatique.
Alors, agenda des politiques, on en vient au projet de loi sur la transition énergétique. Vous l'évoquiez, Jean Jouzel. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que c'est timide?
Non, le projet de loi est assez ambitieux. Il y a le facteur 4 en termes de réduction de gaz à effet de serre qui est inscrit. Après, il faut vraiment qu'il ne soit pas dénaturé, même qu'il soit plutôt renforcé par nos assemblées. C'est mon souhait, certainement, parce que si on veut arriver au niveau mondial, et la France doit être exemplaire également parce qu'on organise cette conférence climat à Paris à la fin de l'année prochaine. Et effectivement, il faut une loi sur la transition énergétique qui soit ambitieuse. Elle l'est actuellement dans ses objectifs. Il faut qu'elle aille au bout et qu'elle se mette vraiment en œuvre. C'est ça la difficulté. On peut faire des lois, mais si les décrets attendent des années et des années, si rien ne se passe après, c'est encore plus décevant.
Ce que j'admire, parce que depuis le temps, c'est pas la première fois que je vous reçois, Jean-Jouzel, c'est que vous restez d'une certaine manière optimiste, tout en nous annonçant quelques catastrophes, mais vous nous dites on peut encore y arriver, il y a des choses qui vont dans le bon sens, c'est pas désespéré.
Non, nous avons face à nous un problème auquel nous avons des solutions, c'est clair. Moi, c'est quand même changer de mode de développement. Je n'aime pas parler de décroissance, c'est aller vers une société où... disons, sobre en carbone de façon simple, ce qui est tout à fait techniquement possible. Ce sont des choix de société importants qu'on n'arrive pas à prendre parce que c'est le long terme par rapport au court terme, c'est très clair. L'intérêt d'aujourd'hui n'est pas l'intérêt de ceux qui seront là dans 20 ans ou 50 ans.
Ah oui. Et puis vous allez même jusqu'à 2100. Un de vos textes, Pierre Barthélémy, s'intitule « La planète n'est pas en danger, l'humanité, oui ». C'est intéressant de voir les choses comme
ça. Oui, c'est vrai que quand j'ai écrit ce texte, j'étais un peu excédé par certains messages qui étaient des messages qui partait d'un bon sentiment. C'était pour sauver la planète, faisons ci, pour sauver la planète, faisons ça, roulons à vélo et pas en voiture, mangeons moins de viande, etc. Dans le fond, les gens qui écrivaient ces slogans n'avaient pas tort sur le fond, mais ils se trompaient de cible. On n'est pas là pour sauver la planète. C'est nous qui sommes les cibles, les victimes annoncées. La planète, elle se sauvera toute seule.
Ouais. Elle s'en sortira toujours, c'est nous qui sommes en danger. Vous êtes d'accord, Jean-Jouzel ?
Oui, et c'est quand on parle d'un débat sur les climato-sceptiques, c'est aussi une question d'échelle de temps. À échéance de milliers d'années, d'une certaine façon, c'est la géologie qui reprendra le dessus, voire de millions d'années. Et c'est un peu le débat qu'on a en France. Mais le problème, c'est même plus les générations futures, ce sont les enfants qui sont dans le cours d'école. C'est maintenant que ça se passe.
Allez, nous aurons l'occasion de revenir à ce thème qui risque de nous occuper encore un bon moment, au moins jusqu'en 2100. Le cerveau continue à identifier les mots durant notre sommeil. Découverte que vous publiez, Sid Coudier, Coudert, décidément, avec les noms, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, dans la revue Current Biology. Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences cognitives et psychologiques. Comment avez-vous procédé pour mettre en évidence les réactions du cerveau pendant notre sommeil ?
Alors, je peux vous raconter en fait comment se passait notre expérience. Ouais. On demandait à des participants de venir, après avoir été un petit peu privé de sommeil de 2-3 heures la nuit précédente, de venir au laboratoire pour une sieste.
Sympa. Ils étaient payés, les cobayes ?
Ils étaient payés, absolument. On leur mettait un filet sur la tête, un filet 2G pour enregistrer leur activité cérébrale, sans rien envoyer, juste enregistrer. Et ils étaient placés dans des conditions propres à l'endormissement. Ils étaient dans le noir, les yeux fermés. Ils écoutaient des mots. Et tout ce qu'on leur demandait, c'était de décider si les mots existent ou pas dans leur langue maternelle. Hein. Vous entendez fipu, il faut dire non. Vous entendez chien, il faut dire oui. Dans une autre expérience, on a demandé tout simplement de dire si c'était des noms d'objets ou des noms d'animaux. Donc, lampe, vous dites objet, animaux, chien, vous dites animaux. Et donc, on a fait ça jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Donc, ils faisaient ça. C'était un peu rébarbatif, et puis en fait, c'était fait exprès pour les pousser à s'endormir. Et
une façon de compter les moutons, hein, votre
exactement,
votre
exactement. Et une certaine partie des sujets, une bonne partie des sujets, se sont endormis. Et ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'ils se sont endormis, on a bien vérifié qu'ils étaient endormis parce que leur EEG montrait vraiment un EEG de sommeil.
Électroencéphalogramme.
L'électroencéphalogramme, pardon. Et en plus, ils arrêtaient de répondre, c'est-à-dire que leurs mains arrêtaient de bouger. Mais néanmoins, ce qui était très intéressant, c'est que leur cerveau, les régions du cerveau qui encodent pour la main, qui préparent la main à répondre, elles continuaient à s'activer. Donc les neurones qui sont dans ces régions du cerveau qui encodent, par exemple, si c'est la main droite ou si c'est la main gauche, en fait, s'activaient, non seulement s'activaient, mais en plus s'activaient pour la bonne catégorie.
Ouais, le cerveau continue de répondre aux questions à notre insu, presque.
Exactement. Mais pour nous, en fait, ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de personnes, mais pour nous, c'était vraiment une prédiction très, très, très forte, très, très logique, qui est basée sur deux choses. La première chose, c'est que c'est vrai que c'est difficile de faire une tâche à quelqu'un qui est endormi, parce qu'on ne peut pas lui donner d'instructions, il est endormi, c'est comme ça, et on sait que les régions exécutives du cerveau sont complètement inactives pendant, pendant le sommeil. Par contre, si vous lui faites faire la tâche avant qu'il ne s'endorme, et tout en s'endormant, alors l'idée c'était qu'il puisse continuer la tâche après qu'il se soit endormi. Mmh. Voilà, donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, à partir du moment où on a réussi à automatiser une tâche, quand ça devient très très simple, donc dire oui ou non, c'est un mot qui existe dans ma langue, après une dizaine d'essais, en fait, ça devient aussi facile que pour vous de conduire en ligne droite, quoi, sans même y penser. Et ça, on sait qu'à partir du moment où c'est automatisé, ça peut être réactivé de manière inconsciente. Ça a déjà été montré dans le cadre d'autres expériences en vision sur la perception subliminale. Et là, ce qu'on montre, c'est que c'est le cas aussi bien pendant le sommeil. Donc ce que ça montre, c'est que le sommeil, vraiment, n'est pas un état où on est complètement déconnecté de l'environnement.
Donc ça c'est nouveau, c'est-à-dire cette idée que certaines zones que l'on pensait endormies de notre cerveau ne le sont pas tant que ça.
Alors oui et non. Ce qui n'est pas nouveau, c'est que ça a été déjà montré chez l'animal surtout en fait le sommeil c'est un phénomène beaucoup plus local qu'on ne penserait. C'est pas un phénomène global, c'est pas tout le cerveau qui est endormi. Au contraire, il y a plein de régions qui sont endormies pendant que d'autres sont éveillées. Et vice versa, il y en a qui se mettent à se réveiller pendant que d'autres se mettent à s'endormir. Donc pendant qu'on dort, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Et ça, bien sûr, comme on n'a pas de comportement, en fait, et avant l'imagerie cérébrale, on ne pouvait pas savoir ça. Voilà. Et donc,
alors, les applications que ça peut avoir, évidemment, tout de suite, on voit le retour du casque sur les oreilles pendant qu'on dort pour apprendre facilement une langue étrangère, une leçon qu'on n'arrive pas à se mettre en tête. Est-ce que ça réactive cette idée qui est pourtant pas si, enfin, souvent décriée? Est-ce que finalement, il y a un sens à faire ça, à écouter des choses pendant qu'on dort?
Je dirais que, très sincèrement, bon, nous, c'est pas ce qui nous intéressait le plus. Ce qui nous intéressait, c'était les limites de ce qu'on peut percevoir de manière inconsciente et pendant le sommeil. Maintenant, l'apprentissage, c'est un peu une suite logique. Moi, je reste convaincu que si on utilise une tâche assez simple et automatisable avant que le sujet s'endorme, une tâche d'apprentissage, celle-ci devrait continuer pendant la nuit. Donc, a priori, enfin, notre prédiction, c'est vraiment que l'apprentissage est possible pendant le sommeil. Maintenant, est-ce que ça en vaut la chandelle? C'est absolument pas clair. Je veux dire, pour apprendre, il n'y a rien de mieux que des conditions où on est complètement attentif, où on est focalisé. Et donc, apprendre pendant le sommeil, a priori, ça pourrait marcher, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
Vous allez le tester, ça, l'apprentissage, pendant... vous êtes en train de travailler dessus?
On est en train de travailler dessus, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant.
Je savais que vous diriez ça, mais ça fait partie de mon
Thomas Andrion, dans notre laboratoire, fait sa thèse là-dessus. Et donc, on est en train de tester ça de manière très, très active.
Et inversement, inversement, on peut se dire que ça veut dire que quand on dort, on perçoit les mots autour de nous. Donc, est-ce que c'est aussi une façon de perturber le sommeil? Est-ce qu'on peut influencer plus ou moins consciemment un dormeur? Tous les conjoints vont se dire maintenant, si je parle à ma moitié lorsque il ou elle dort, je peux peut-être faire passer certains messages.
Oui, c'est de l'inception, donc comme dans un film qui est sorti il y a quelques années. Oui, c'est.
Mais on est dans la science-fiction ou on
Non, on est dans la réalité. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle un professeur Paller aux États-Unis à Northwestern qui travaille exactement là-dessus, qui a commencé à montrer des évidences. Donc il montre, en fait, il essaie d'associer en fait des nouvelles idées ou des nouveaux sons à des odeurs pendant le sommeil. Donc il y a tout un courant de recherche là-dessus. Encore une fois, je pense qu'il faut être précautionneux. C'est des effets qui sont assez faibles. On montre que ça existe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se mettre à apprendre des langues étrangères pendant le sommeil très facilement.
D'accord. Quelle déception. Pierre Barthélémy, le cerveau, toujours source d'étonnement, avec par exemple une autre histoire que vous racontez. Alors, il y en a deux sur le cerveau. Il y a celle de la femme qui ne connaît pas la peur. Et il y en a une qui ressemble peut-être un peu plus à celle-là. C'est l'enfant qui commence à apprendre le langage dans le ventre de sa mère. Donc déjà, là encore, cette idée que le cerveau perçoit bien avant qu'on ait conscience.
Oui, le cerveau, il commence à se construire très très tôt dans le ventre dans l'utérus. Et c'est vrai que dans les dernières semaines de la grossesse, on a quelque chose qui finalement va être très proche de ce qu'il va avoir juste après la naissance. Donc il faut voir aussi qu'on entend assez bien finalement la voix de sa maman, puisque bon, ça résonne quand même dans tout le corps. Et effectivement, certaines expériences ont montré qu'avec des sons plus qu'avec des mots, mais grosso modo qu'on était quand même capable de saisir un certain nombre de syllabes quand on était dans le ventre de la maman, et que justement, ensuite, après la naissance, on testait sur on faisait écouter des sons à des bébés dans le ventre de leur maman, et une fois qu'ils étaient nés, on reproduisait et on se rendait compte que les enfants réagissaient d'une manière tout à fait différente si le mot, ils l'avaient déjà entendu, s'ils le connaissaient. Ils étaient des mots qui n'existaient pas dans le langage, en fait.
Sid Quider.
Oui, donc je ne suis pas du tout étonné par ce genre d'études. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage implicite. Et on sait qu'on peut apprendre de manière inconsciente. Et donc là, c'est montré avant la naissance chez les bébés. Ouais. Et on peut le montrer dans des cas où les personnes ne peuvent absolument pas se rappeler de ce qu'ils ont appris. Mais néanmoins, il y a une influence. C'est ce que vous parliez d'amorçage tout à l'heure. Ouais. Et là, ça peut aussi bien être montré pendant le sommeil, effectivement.
Alors, très brièvement, une autre histoire pour terminer, parce qu'on aime bien les histoires dans cette émission, Pierre Barthélémy. Donc, la femme qui ne connaissait pas la peur, c'est assez étonnant. Là aussi, c'est une histoire de cerveau.
Oui, donc c'est une femme américaine, si mon souvenir est juste, qui souffrait d'une maladie des amygdales, qui sont pas les amygdales qu'on a au fond de la bouche, mais celles qui sont dans le cerveau. Et en fait, c'est un peu le centre de la peur. Et elle avait des calcifications au niveau des amygdales, et donc finalement, elle ne se rendait pas compte que des dangers, des menaces qui l'entouraient. Et elle s'est fait agresser plusieurs fois, notamment une fois, on lui a mis un couteau sous la gorge, et c'était « je vais te découper », quoi, voilà. Mm-hmm. Et elle n'a absolument pas réagi. Elle a été aussi victime d'attaques à main armée. Elle a été vue comme une héroïne, mais en fait, on n'est pas un héros quand on n'est pas courageux. Quand on n'a pas peur.
Mais ça a fait fuir son agresseur.
Oui, voilà,
ça
a fait fuir son agresseur, et en fait, on s'est rendu compte que on pouvait court-circuiter ce centre de la peur par une expérience qui était assez, assez intéressante. On l'a quasiment asphyxié, on lui a fait respirer beaucoup de CO2, et là, l'organisme, elle a fait une crise de panique, à sa grande surprise d'ailleurs, parce que l'organisme a réagi d'une manière complètement différente. Il y avait une espèce de porte, de backdoor, de porte dérobée pour avoir accès justement au sentiment qu'elle n'éprouvait plus.
Et je rappelle le titre de votre livre, Pierre Barthélémy, Passeur de science, aux éditions Hugo et compagnie. Merci à vous, Pierre Barthélémy, Hugo Aguilagnou, Jean Jouzel et Sid Quider, d'avoir participé à ce club des Têtes au Carré.
Seems to go nowhere.
C'était Tainted Love, Soft Cell, pour terminer cette semaine de Tête au Carré. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos messages vocaux sur le répondeur de la Tête au Carré qui est à votre disposition. Intervenez, réagissez, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les dossiers que nous vous proposons. Vous pouvez bien sûr revenir sur des émissions qui vous ont fait réagir. Soyez critiques, donnez-nous également vos infosciences avec des rendez-vous qui se passent près de chez vous et que vous voulez faire connaître aux auditeurs. Suggérez-nous également des thèmes, des missions que vous aimeriez voir abordées dans la Tête au Carré. Soyez drôle, méchant, curieux et surtout scientifiquement irréprochable. Mathieu Vidard diffusera vos messages tous les jours à l'antenne. Un numéro de téléphone à composer pour le répondeur de la Tête au Carré. 01 56 40 69 47. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le sujet de la fiction est l'histoire de Dan Cooper en 1971. Un pirate de l'air, pas comme les autres. Merci à Philippe Duclos et Maxime Ingrand qui était à la technique aujourd'hui. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard aux commandes de La Tête au Carré. Il recevra Elisabeth Roudinesco qui vient présenter la biographie de Sigmund Freud. Vous écoutez France Inter, il est 15h.